europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Les dirigeants européens avaient imaginé une rencontre au sommet à Porto avec le Premier ministre indien Narendra Modi dans le cadre de la présidence portugaise de l'Union européenne. La pandémie du Covid en a décidé autrement. Si la situation est cauchemardesque en Inde, elle est loin d'être revenue à la normale en Europe. La rencontre aura bien le samedi prochain, 8 mai, mais en visioconférence. L'Union européenne est le plus important partenaire commercial de l'Inde avec près de 20% du total de ses échanges. L'Union européenne est également un grand investisseur dans ce pays de plus de 1,3 milliard d'habitants qui sera bientôt plus peuplé que la Chine. Mais au-delà des échanges économiques, Européens et Indiens partagent une méconnaissance mutuelle. Covid-19 oblige, les Européens ont découvert que l'Inde est devenue la pharmacie du monde, et pas seulement celui des vaches sacrées, mais rares sont ceux qui pourraient citer le nom du Premier ministre indien. Les Indiens, quant à eux, ont bien du mal à comprendre le fonctionnement de l'Union européenne, mais aussi l'évolution de notre mode de vie et de nos mœurs. Une méconnaissance mutuelle donc qui n'empêche pas l'émergence d'intérêts communs. L'Inde, comme l'Europe, regarde avec une inquiétude croissante l'émergence d'une Chine de plus en plus puissante mais aussi de plus en plus autoritaire et aux ambitions planétaires. Je vous présente les invités qui nous ont rejoints tantôt par téléphone et tantôt dans le studio 21 de RFI. Bonjour Jean-Luc Racine.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de recherche émérite au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud à l'EHESS. Et l'EHESS, c'est l'école des hautes études en sciences sociales. Et vous êtes aussi chercheur à Asia Centre. Sandrine Prévost, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue, chercheuse, vous aussi associée au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud, par définition toujours à l'EHESS. Vous venez juste de publier un livre aux éditions de l'Aube qui s'intitule « L'Inde, une société de réseau » et qui permet de mieux comprendre ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire que l'Inde est une société très complexe, très différente des sociétés occidentales. Et pour essayer de mieux comprendre comment vivent les Indiens et qui sont les Indiens, j'invite nos éditeurs à se plonger dans votre livre « L'Inde, une société de réseau » aux éditions de l'Aube. Bonjour Balvir Arora.
Bonjour.
Vous êtes président du Centre for Multilevel Federalism à l'Institut des sciences sociales de New Delhi. Merci d'être en ligne de New Delhi. Et puis à mes côtés, Olivier Dallage. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Journaliste à RFI, grand spécialiste de l'Inde devant l'éternel. Votre dernier livre, Olivier, L'Inde, un désir de puissance charmant colin. Alors je dis que c'est le dernier. En réalité, c'est pas tout à fait ça. Parce qu'après, il y a eu un roman où il est question d'un certain rickshaw, en deux mots.
Voilà, c'est un petit roman policier qui se passe en Inde.
Voilà. Et puis, évidemment, Carrefour de l'Europe, comme chaque semaine, en partenariat avec Courrier International. Alors, je ne peux pas commencer cette émission sans vous demander, Balvir Arora, comment évolue la situation sanitaire dans votre pays? Ces derniers jours, il y a eu près de 400 000 cas de Covid par jour et près de 4 000 décès. Un bilan officiel très probablement sous-estimé. Quelle est la situation en ce moment à New Delhi, dans le reste de l'Inde?
Eh bien, la situation continue à être inquiétante. Au Maharashtra, ça commence à s'apaiser, mais il y a une flambée dans d'autres régions, notamment Delhi, la capitale, où ça devient, ça reste très inquiétant. Et nous pensons que cette vague va continuer au moins jusqu'au milieu du mois de mai. Donc, c'est pas terminé et les hôpitaux sont toujours débordés, il manque de médicaments et il manque d'oxygène. Et donc, et vous avez raison, les chiffres des morts sont sous-estimés. Nous voyons autour de nous, il y a beaucoup plus de morts.
Alors, vous l'avez dit, la guerre orale, le pays manque de médicaments et d'oxygène. La solidarité internationale s'est manifestée, et notamment la solidarité européenne via le mécanisme de protection civile de l'Union, mais aussi avec les pays européens qui ont envoyé du matériel et notamment des systèmes pour produire de l'oxygène. Cet appel à la solidarité internationale, c'est un peu un retournement de situation, car dans les premiers mois de la pandémie, l'Inde a été la pharmacie du monde, selon l'expression consacrée, et a produit des quantités de vaccins ou de matières première pour la confection de ces vaccins. Olivier Dallage, il y a eu un retournement de situation.
Oui, et d'ailleurs, le Premier ministre avait voulu lancer une diplomatie vaccinale en exportant quelque chose comme 65 millions de doses, certaines données, d'autres vendues, alors même que les Indiens avaient besoin des leurs. Bon, évidemment, la situation de la pandémie a abouti à bloquer les exportations. Cela dit, il faut savoir quand même que l'Inde n'était pas productrice de toutes les matières premières nécessitées par la production de vaccins. Ils ont découvert avec horreur qu'ils dépendaient de la Chine, par exemple, pour produire leurs vaccins.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de matières premières, mais pas toutes, pas suffisamment pour faire un vrai vaccin.
Et des États-Unis qui ont bloqué à leur tour les exportations qui viennent tout juste d'être levées.
Alors, Jean-Luc Racine, c'est un variant dit variant indien qui est apparu récemment et qui contamine la population, un variant très contagieux, ce qui n'explique pas tout à fait le nombre important de malades, enfin ce qui explique partiellement le nombre important de malades, mais pas seulement, car si l'Inde a été épargnée par la deuxième vague, celle de janvier dernier, New Delhi a fait preuve, je dirais, d'imprudence, de laxisme, notamment du fait du Premier ministre Narendra Modi, qui a fait preuve, sinon d'un excès de confiance et d'arrogance, du moins un petit peu d'insouciance.
Oui, il y a eu de toute évidence de la part du pouvoir central une façon un peu légère, cavalière, de penser que le pire de l'épidémie était passé. Il est vrai que début février, on comptait à peu près 10 000 nouveaux cas par jour, ce qui est quasiment rien pour un pays, vous l'avez dit, de presque 1 milliard 400 d'habitants. Le problème, c'est que 15 jours plus tard, ce qu'on appelle en Inde la deuxième vague a commencé et les réactions ont été beaucoup trop tardives d'une part. Il y a bien sûr un problème structurel, le budget de la santé est beaucoup trop faible dans le pays, mais il y a eu aussi des problèmes circonstanciels. 5 États étaient en campagne électorale sans aucune protection, distanciation, voire masque. Le grand pèlerinage de la Kumbh Mela dans la vallée du Gange s'est déroulé en attirant des millions de pèlerins. Et puis, il y a eu donc de toute évidence une sous-estimation du risque, une difficulté à harmoniser les actions avec les différents États de l'Inde, puisque n'oublions pas qu'on est dans un système fédéral de facto, et donc la mauvaise gestion de la crise aura probablement des conséquences politiques.
Alors le choix justement d'avoir maintenu ces élections et d'avoir maintenu des grands meetings, c'est un choix très politique du Premier ministre Narendra Modi.
Oui, bon, il faut dire que beaucoup de leaders régionaux avaient fait le même choix, mais Narendra Modi a vraiment attendu la dernière minute, si j'ose dire, pour arrêter de faire campagne au Bengale occidental, qui est l'élection qui a le plus de valeur symbolique, parce que c'est tenu par l'opposition, et bien sûr, ça a été pendant 30 ans, ça ne l'est plus depuis une dizaine d'années, le foyer majeur de la gauche indienne.
Alors, avant de parler des relations entre l'Inde et l'Europe, et puis dans un deuxième temps de l'Inde dans le monde, Olivier Dallaire, on va dire un petit mot sur Narendra Modi, qui, le Premier ministre indien, il est au pouvoir depuis 2014, et avec son parti, le BJP, qui veut dire, le Parti du Peuple Indien, un parti très nationaliste, très hindou et très nationaliste.
Oui, il s'inscrit dans une tradition de nationalisme religieux, mais il est intéressant de voir qu'en 2014, quand il est arrivé au pouvoir, la campagne n'était pas du tout sur ces bases-là, mais sur une promesse d'un avenir meilleur sur le plan économique et social. C'est lors de la campagne pour le second mandat, donc en 2019, que les fondamentaux du nationalisme hindou sont revenus à la surface, avec des promesses très clivantes et très nationalistes.
Jean-Luc Racine, il y a eu, me semble-t-il, deux Narendra Modi, le premier qui a été élu en 2014, comme vient d'expliquer Olivier Dallaire, avec la promesse d'un changement et d'une modernisation du pays, d'une amélioration du niveau de vie. Et puis, une deuxième élection, je serais tenté de dire relativement triomphale, en 2019, où là, il s'est révélé plus nationaliste, quand je dis plus nationaliste, c'est plus nationaliste hindou, avec vraiment une accentuation d'une discrimination à l'égard de la population musulmane, mais pas seulement.
Oui, moi pour ma part, j'ai tendance à penser qu'il y a un Narendra Modi. Mais en tant que bon politique, il a voulu consolider la position de son parti lors de son premier mandat. Et une fois réélu, vous l'avez dit triomphalement, en tout cas, on s'attendait à ce que le BJP gagne, mais pas avec davantage de voix que la première fois, où il se retrouve encore une fois le parti majoritaire à la chambre basse du Parlement. Donc ça donne évidemment du pouvoir, et ce pouvoir a été utilisé au fil de ce second mandat pour marquer des actions politiques tout à fait emblématiques, changer le statut du Cachemire, obtenir de la Cour suprême l'autorisation de construire ce temple monumental à Ayodhya sur l'ancienne mosquée moghole qui avait été détruite par les sikhs du BJP en 1992, et puis lancer cette politique d'accueil des réfugiés des pays voisins, sauf s'ils étaient musulmans. Et là, on a vu quand même des manifestations de rue pas mises en place par les partis politiques, mais et c'est finalement la pandémie du Covid qui a mis un terme à ces plusieurs mois d'agitation contre le programme nationaliste hindou du Premier ministre.
Olivier Dallage, on dit toujours que l'Inde est la plus grande démocratie du monde. L'est-elle toujours ?
De moins en moins. Elle est toujours grande, mais elle est de moins en moins démocratique. Et d'ailleurs, de nombreux organismes internationaux ont déclassé l'Inde de manière très sensible dans leur rapport annuel, ce qui met en rage les dirigeants non seulement du parti, mais aussi la presse indienne, qui est très largement maintenant alignée sur le parti au pouvoir, avec le sentiment que le reste du monde donne des leçons à l'Inde qui n'a aucune leçon à recevoir.
Oui, être un journaliste en Inde, un journaliste indépendant, c'est pas très facile.
Ben, on perd souvent son emploi.
Pour le dire brièvement. Jean-Luc Racine, c'est vrai qu'on disait que l'Inde est donc la plus grande démocratie du monde. On dit maintenant que c'est une démocratie partiellement libre. On emploie même parfois le terme d'autocratie.
Oui, autocratie, c'est peut-être un peu exagéré, mais moi je dirais plutôt que l'Inde est malheureusement en train de devenir une démocratie illibérale, pour reprendre un concept venu des États-Unis, mais qui a une vocation bien au-delà du cas indien.
Qu'on applique aussi en Europe, notamment avec Viktor Orban en Hongrie.
Oui. Donc, ça pose évidemment une question de fond. Est-ce qu'une démocratie est simplement définie par le fait que les électeurs vont aux urnes et que les élections ne sont pas systématiquement truquées, ou que l'opposition n'est pas dans l'incapacité de se présenter, comme c'est le cas dans la Russie de Vladimir Poutine? Donc, de ce point de vue-là, les élections ont lieu. Certaines viennent encore d'avoir lieu. Mais il est vrai qu'il y a un certain nombre de mesures, de restrictions des libertés publiques, mais c'est moins ça que la stratégie de communication par les réseaux sociaux, par les trolls, par tout ce qui est dans la main du pouvoir, qui finit par laisser penser que tous les opposants sont finalement suspects de sédition. Et ça, évidemment, c'est une dérive par rapport au modèle démocratique. Je note au passage, et je m'arrête là, que l'Union européenne continue de présenter elle-même et l'Inde comme étant les plus grandes démocraties du monde.
Malir Arora, est-ce qu'on est passé en Inde du populisme à une forme d'autoritarisme ?
Oui, en effet, je crois que c'est le mot qui convient, parce que depuis le début, il a voulu être le grand chef, le supremo numéro un, et ça aux dépens des chefs, des leaders régionaux. Le système fédéral a été endommagé. Et donc, il a mené cette bataille contre le Covid personnellement. Mais là, les choses tournent mal et il y a une tentative de dire que c'est la faute aux États, parce que c'est les États qui sont chargés de livrer les soins de la santé publique. Mais c'est l'autoritarisme d'un type assez spécial qui a des origines idéologiques dans le nationalisme hindouiste et qui se voit dans la composition de son gouvernement, parce que finalement, c'est lui au centre, et puis on ne voit pas très bien qui d'autre prend des décisions.
Olivier Dallage, le fait que la communauté internationale soit venue au secours de l'Inde, qu'est-ce que ça peut avoir comme impact? Est-ce que c'est une forme d'humiliation pour l'Inde ou finalement non?
Non, pas du tout. C'est pas une humiliation. C'est une humiliation pour ceux qui disaient que l'Inde était totalement autonome. Et c'était le nouveau slogan de Narendra Modi, une Inde totalement autonome, pas autarcique, mais qui était autosuffisante. Et là, il a fallu se tourner, ou en tout cas accepter l'aide internationale, qui a peut-être un petit peu tardé, mais qui est là. Et il n'est pas possible de la refuser, parce que la situation est telle que vraiment, on voit bien que tous les pays ont besoin les uns des autres. C'est un peu humiliant, mais je pense qu'on va passer au-delà de ça.
Sandrine Préau, on vous a pas encore entendu au cours de cette émission, mais voilà, ça va être votre tour. L'Inde, je l'ai dit, plus de 1,3 milliard d'habitants, reste un pays très méconnu pour les Occidentaux en général et pour les Européens en particulier. On va assez rarement faire du tourisme en Inde, en tout cas c'est très minoritaire. On a du mal à aller un peu au-delà des clichés, des images d'Épinal. Bah, les vaches sacrées, l'hindouisme et ses dieux multiples qui nous perturbent un petit peu, les castes qui figent l'évolution sociale. L'Inde, c'est un monde très difficile à comprendre pour un Européen.
Oui, tout à fait. C'est un monde difficile à comprendre parce que je pense que dans le rapport à l'autre, le rapport à l'individu, le rapport au groupe est complètement différent que ce que l'on connaît chez nous. Par exemple, chez nous, on est habitué à voir l'individu comme une personne complète, autonome. Son idéal, c'est l'autonomie, l'indépendance. Alors qu'en Inde, l'individu isolé, autonome, ça n'existe pas. Sauf peut-être les grands mystiques, les sadhus, etc. Et encore, ils sont toujours dans une communauté. Donc en fait, le rapport à l'autre fait qu'on est dans une société qui privilégie le groupe, l'interdépendance. Les relations de dépendance les uns à l'égard des autres sont admises, elles sont entretenues. Ce qui va faire toute la force sociale de l'Inde, ça va être ce réseau-là qui a une force... Il y a une force d'émulation très importante et qui pour nous, pour un occidental, peut être perçue comme très contraignante, voire étouffante. Alors il y a ça qui fait de ce pays un pays très relationnel, où on rencontre à tout moment on est dans l'hospitalité. Et l'autre dimension qui est très difficile à comprendre, c'est que dans cette société, tout est hiérarchisé et les influents ont des privilèges et les défavorisés sont mal jugés et méprisés.
C'est à la fois une société très traditionnelle, hein, où la famille est très importante, vous l'avez dit.
Oui, très traditionnelle, c'est-à-dire très orientée sur le groupe. C'est-à-dire qu'ils abordent la modernité, pas via l'individu, mais via la famille, via le groupe. Et tout comme les castes. Les castes, ce qui est difficile aussi, c'est qu'il y a un côté négatif des castes, évidemment, quand on est dans les relations de castes. Les relations de caste qui est basé donc le système des castes, les hautes castes dénigrent les basses castes, mais la caste en soi, c'est aussi un énorme réseau social. C'est très positif. Moi, pour avoir été intégrée dans une caste, les Raikas, donc, c'est un énorme réseau social que je crois que personne ne connaît ailleurs. Il y a une solidarité, c'est certainement d'ailleurs cette solidarité qui permet une certaine résilience, qui permet d'affronter toutes les situations difficiles, que ce soit la démonétarisation que vient de mentionner Balbir, ou même cette crise-là, c'est parce qu'il y a une solidarité. Donc les relations entre castes, c'est vrai, c'est ancien, surtout ceux qui sont au bas de l'échelle, les Dalits, et c'est très dur comme société, mais en même temps, c'est ça qui permet une certaine résilience grâce au réseau de castes que constitue quand on appartient à cette caste-là, évidemment.
Alors à l'inverse, les Indiens ont un peu de mal à appréhender notre société très individualiste, si peu spirituelle, aux mœurs très libérées. Par exemple, le mariage pour tous en Inde, c'est évidemment assez incompréhensible.
Le mariage pour tous, oui. L'idéal du mariage en Inde, c'est le mariage hétérosexuel et puis... La dépénalisation de l'homosexualité n'existe que depuis 3 ans. Et puis surtout, en Inde, ce qui compte, c'est les mariages arrangés. Mariages arrangés aussi que nous, en Occident, on a du mal à comprendre qu'on va associer à des mariages forcés. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mariage forcé, mais que les mariages arrangés, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, évidemment, nous, avec nos mariages d'amour qui se terminent par des divorces ou des séparations, en Inde, c'est la pire configuration possible. Et c'est d'ailleurs une des choses qui fait que les mariages d'amour, qui sont en fait des mariages mixtes, ne sont pas du tout plébiscités en Inde parce que justement, ça aboutit le plus souvent à des séparations. Et la presse indienne va mettre en valeur la famille indienne et la stabilité des rapports conjugaux par rapport à un Occident voilà, qui a avec ses mariages d'amour, en fait, c'est des familles instables, ce qui est la pire configuration dans ce pays où on cherche quand même de la stabilité, du lien, des liens qui durent.
Carrefour de l'Europe, Daniel Desesquel.
Carrefour de l'Europe entre l'Europe et l'Inde, une méconnaissance mutuelle. On vient de le comprendre un petit peu avec vous, Sandrine Prévost. Nous sommes avec Jean-Luc Racine, directeur de recherche émérite au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud de l'EHESS. Avec Sandrine Prévost, ethnologue et chercheuse, elle aussi, au Centre d'études de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est, qui vient de publier l'Inde, une société de réseau aux éditions de l'Aube et qu'on vient d'entendre. Avec Balfir Arora, qui est président du Centre for Multilevel Federalism à l'Institut des sciences sociales de New Delhi. Et avec Olivier Dallage, journaliste à RFI. Et grand spécialiste de l'Inde. Olivier Dallage, une société traditionnelle, Sandrine Prévost vient de nous l'expliquer, mais en même temps traversée par une modernité ouverte sur le monde, paradoxalement.
Non, mais le paradoxe, c'est nous qui le voyons. C'est pas paradoxal en Inde. Ils ont juste une autre approche de la modernité. Donc c'est traditionnel, mais ça veut pas dire qu'on vit comme à l'âge des cavernes. C'est vraiment, encore une fois, par exemple, on parlait de la difficulté de se comprendre. Quand des amis indiens viennent à Paris, la première chose qu'ils disent, c'est « il y a tant de pauvreté ». Ils voient les gens qui mendient dans le métro, qui dorment sur les bancs. Bon, quand un Français va en Inde, il dit « il y a tant de pauvreté ». Voilà, ces deux approches, un effet miroir en quelque sorte.
Alors, une méconnaissance mutuelle, Jean-Luc Racine, qui n'empêche pas des intérêts communs. Samedi prochain, 8 mai, le 16e sommet indien se déroulera à Porto. Alors, si on veut dire, hein, puisque de toute façon, il sera en visioconférence, donc pas vraiment à Porto, mais tout de même un petit peu. Sur le plan économique, l'Union européenne est le premier partenaire de l'Inde. C'est un marché qui a la réputation d'être très fermé. Est-ce que ça change un peu? Et est-ce qu'il n'y a pas un certain paradoxe entre un pays, une puissance émergente de premier plan? On a vu que, bon, on a déjà dit que l'Inde, c'était un peu la pharmacie du monde, qu'en matière informatique, en matière de conception de logiciels, l'Inde est vraiment un leader mondial. Et puis, une attitude protectionniste pour protéger les industries domestiques. Alors, voilà, je parlais de paradoxe entre la modernité et la tradition à Olivier Dallage. Il m'a dit pas du tout. Vous allez me dire vous aussi. Non, non, pas du tout. C'est tout à fait cohérent. Ou pas?
Je suis pas partisan des grands clivages structurels qui permettraient d'expliquer tout ou de n'expliquer rien, d'ailleurs, selon les cas. Non, je pense que la question que vous posez est parfaitement légitime dans la mesure où la politique économique indienne cultive une ambiguïté délibérée, je dirais. D'un côté, on a le discours du Premier ministre de longue date, depuis 2014, en disant « Make in India, venez en Inde pour fabriquer, nous vous accueillerons, vous pourrez vendre dans ce grand marché et vous pourrez exporter ». Et puis, on a eu, à partir des difficultés antérieures même à la pandémie du Covid, on a eu un autre discours, celui d'une Inde plus autonome, qui avait été évoquée en début d'émission, tout en précisant aussi que, attention, le nouveau slogan, c'est « Vocal for local ». C'est-à-dire, soyez locaux, mais soyez locaux pour pouvoir exporter. Donc tout ça demande un certain déchiffrage, si j'ose dire. Mais je rappellerai simplement deux choses. D'une part, en 2019, le PNB de l'Inde a dépassé celui du Royaume-Uni et celui de la France. Il faut dire que les trois étaient dans un mouchoir en 2018. Je ne sais pas si ça va, cet ordre va rester une cinquième puissance économique avec les contre-coups du Covid. Mais en tout cas, l'émergence, elle est là. Et on en a un exemple avec tous les problèmes posés par ce que sera la nouvelle économie post-Covid, la redéfinition des chaînes de valeur. On a vu des milliards d'investissements promis, entre autres par les GAFA, pour venir s'investir en Inde. Tout cela a été décidé en 2020 et sera probablement confirmé en 2021. Donc, il est vrai que nombre d'investisseurs étrangers se plaignent des difficultés bureaucratiques, mais ça dépend aussi des politiques des États. Certains sont beaucoup plus accueillants que d'autres. Et puis, il faut quand même rappeler qu'il y a à peu près 6000 entreprises européennes qui se sont installés en Inde.
Alors néanmoins, l'Union européenne n'a jamais réussi à signer, et là non plus n'a jamais réussi à signer, un accord de libre-échange. Il y a toujours cette difficulté à signer un accord de libre-échange, car c'est pas, disons, un trait commun de la politique commerciale indienne. On n'est pas tout à fait pour le libre-échange, on est quand même pour une protection du marché intérieur.
Oui, le traité de libre-échange est sur la table depuis 2007. Donc, on ne peut pas dire évidemment que les deux parties se dépêchent de conclure un accord. Bon, côté indien, il y avait de vraies réticences vis-à-vis du protectionnisme européen tel qu'il est perçu en matière, par exemple, de politique agricole commune, c'est-à-dire énorme subvention à l'agriculture. Donc, il y a des questions de fond. Et en même temps, ça ne vise pas uniquement l'Europe, puisque l'Inde, qui avait participé aux négociations pour faire aboutir ce qu'on appelle le RCEP, c'est-à-dire ce traité de libre-échange qui vient d'être signé entre les pays de l'ASEAN, la Chine entre autres, mais sans les États-Unis, eh bien l'Inde a refusé de signer au dernier moment. Donc c'est vrai qu'il y a une tentation, je dirais pas forcément protectionniste à tout craint, mais en tout cas une volonté d'avoir un maximum de garanties. Et on verra ce que ça va donner, puisque normalement, le traité de libre-échange devrait faire l'objet de nouvelles négociations dans les mois qui viennent.
Olivier Dallache, les grandes faiblesses stratégiques de l'Inde, c'est surtout au niveau des infrastructures. Elles sont peu développées, en tout cas pas suffisamment pour devenir un pays émergent aussi bien concurrent de l'Inde, de la Chine par exemple.
Bah, par rapport à la Chine, l'Inde est considérablement sous-capitalisée, que ce soit en cash ou en infrastructure. Je veux dire, les plus lucides Indiens, il y en a beaucoup, heureusement, notent que vouloir faire jeu égal avec la Chine sur plan économique, c'est un projet pour plus tard. C'est encore très loin d'être le cas. Et effectivement, les infrastructures, l'innovation, on est encore très très loin en Inde de ce qui existe en Chine.
Il y a quelques îlots de modernité, de très grande productivité. J'ai parlé des médicaments, j'ai parlé de l'informatique, des logiciels, etc. Mais tout autour, il y a des déserts économiques. C'est un peu ça.
Oui, puis un problème d'énergie, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas assurer à l'industrie qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité, d'eau, que les routes se permettront d'évacuer les marchandises produites, etc., etc., forcément ça freine.
Malvir Arora, est-ce que vous pourriez nous dire comment l'Inde, comment les Indiens voient l'Europe, comme un ensemble plus ou moins cohérent de 27 pays, ou avec justement 27 pays, et certains qui sont plus importants que d'autres. Alors on peut imaginer que sur le plan économique, l'Allemagne est très très important, la France aussi probablement, et la France peut-être un peu plus sur le plan stratégique, on va y venir. Comment les Indiens voient l'Europe, comme un ensemble ou comme une mosaïque forcément de petits pays?
Mosaïque de grands pays quand même, parce que ce sont des puissances, ont été des puissances globales et penser l'Europe en tant qu'entité, oui, ça commence, parce qu'il y a des échanges au niveau avec l'Union européenne et il y a des comme vous disiez, il y aura un dialogue stratégique à la fin de la semaine, mais essentiellement, on pense au pays, on pense à la France, on pense à l'Allemagne, on pense à l'Italie, on pense au Portugal, parce que le Portugal était présent en Inde avec ses colonies à Goa. Et donc, ça reste essentiellement, l'Europe est perçue à travers les images que les Indiens ont de l'Angleterre, de la France, du Portugal, ce que les trois grands pays présents en Inde.
Et aujourd'hui, dans la marche du monde, qui est évidemment toujours un peu chaotique, qu'est-ce que l'Inde, les Indiens attendent de l'Europe et des Européens?
Mais je crois que, comme Jean-Luc disait, il y a ce traité de libre-échange qui traîne. Et maintenant, avec les difficultés économiques un peu partout, avec la pandémie, je crois que la crainte, c'est qu'il y aurait plus de protectionnisme parce que les industries locales ont souffert énormément et donc voudraient être protégées pour regagner l'essor. Et puis, d'autre part, il y a, je crois qu'Olivier a mentionné ça, c'est la question des investissements. Ça, c'est toujours un problème parce que le régime actuel a des grands projets, on dirait même des projets grandioses d'infrastructures et de smart cities, des villes. Pour tout ça, et puis il y a un projet qui est critiqué en ce moment, c'est de refaire le centre de New Delhi avec ses bâtiments qui comprennent le Parlement et le India Gate, de refaire ça à un coût énorme. Je crois que ça attire beaucoup de critiques parce que quand on manque l'essentiel pour combattre le virus, ça paraît quelque chose de totalement superflu.
Balfour, une petite curiosité de ma part, est-ce que le regard des Indiens a changé à l'égard des Britanniques, du Royaume-Uni, depuis le Brexit et depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, ou finalement, ça n'a pas fondamentalement changé le regard de l'Inde et des Indiens sur les Britanniques et le Royaume-Uni?
Vous savez, ce regard date de loin et il va falloir beaucoup d'autres choses pour que le regard change. Je crois que ce rapport bilatéral qui a toujours existé entre l'Angleterre et l'Inde, il y a évidemment le lien du Commonwealth, je crois que l'Angleterre cherche à renforcer à la fois le Commonwealth et les liens bilatéraux, mais l'Inde sait très bien que en dehors de l'Europe, l'Angleterre est plutôt affaiblie et donc il a de bons rapports avec l'Union européenne et les principaux pays de l'Union européenne.
Olivier Dallage, entre l'Union européenne et l'Inde, entre l'Europe et l'Inde, il y a un point commun, c'est une inquiétude croissante à l'égard de la Chine, de plus en plus puissante, de plus en plus autoritaire et aux ambitions planétaires.
Oui, c'est vrai, mais je pense que les Indiens ne comptent pas sur l'Union européenne en tant que telle pour faire concurrence ou s'opposer à la Chine.
Il y a une différence, c'est que l'Inde a une grande frontière commune avec la Chine, ce qui n'est évidemment pas le cas de l'Europe par définition.
Non, mais encore une fois, les Indiens voient davantage les puissances européennes, notamment celles qui ont été traditionnellement présentes, comme la France, le Royaume-Uni, le Portugal, qui est l'hôte de ce sommet. Et donc la politique navale française, par exemple, dans l'océan Indien, que les Indiens ont longtemps vu avec méfiance, aujourd'hui est un atout et un partenariat stratégique très important qui, de toute évidence, vise la Chine. Mais l'Union européenne n'est pas perçue comme un bloc pouvant faire contrepoids...
Comme une puissance.
Non. D'ailleurs, je pense que il y a une fausse symétrie entre l'Union européenne et la Chine. Vous avez d'un côté 28 États ou territoires avec un
27.
Pouvoir... avec un pouvoir fédéral, l'Inde.
Ah, pardon.
Et un autre qui avait 28 États, qui n'en a plus que 27, mais qui n'est pas fédéral. Et donc, c'est une fausse symétrie, et les Indiens se demandent très souvent, mais bon, c'est quoi exactement l'Europe? Vous avez des pays différents, des langues différentes, nous aussi, pourquoi vous ne travaillez pas comme nous, finalement?
Il n'y a pas d'armée européenne, alors qu'il y a quand même une armée indienne, ce qui fait quand même une petite différence. Jean-Luc Racine, pour l'Europe, la Chine est devenue un rival stratégique. Comment définit-on la Chine en Inde? On parle de rival stratégique, on parle de concurrent, on parle de quoi?
Ah, on parle à plusieurs voix, c'est-à-dire qu'on s'en méfie énormément et en même temps, on n'a pas voulu pendant longtemps apparaître comme étant une espèce de fer de lance de proximité contre la Chine dans la perspective globale donc de la rivalité Chine-États-Unis. Bon, cela dit, je note que l'Union européenne est en réalité divisée sur la nécessité d'un traité de libre-échange ou en tout cas d'un traité commercial avec Pékin. Non, en fait, je pense que on le voit, ça ne fait pas encore partie du discours officiel, très clairement, mais peut-être que ça va apparaître lors du prochain sommet. Mais un certain nombre d'analystes indiens de la situation internationale et de la politique étrangère indienne commencent à dire, dans le cadre général des nouvelles dynamiques asiatiques et globales, l'Inde s'est rapprochée des États-Unis, du Japon, de l'Australie pour consolider ce vieux projet qui s'appelle le Quad, le quadrilatère entre ces quatre démocraties, puisque c'est ainsi que Shinzo Abe les avait définis au départ, il y a maintenant plus de 10 ans. Et on voit donc certains analystes très, très bien informés qui considèrent que vis-à-vis de la Chine, l'Inde ne doit pas apparaître comme étant trop proche des États-Unis, même si elle s'en rapproche. Mais la ligne officielle, c'est « nous sommes partenaires, mais nous ne sommes pas alliés ». De plein droit. Et dans ces nouvelles configurations, il semble qu'il y a une nouvelle image de l'Union européenne comme étant un acteur susceptible de contribuer à un certain rééquilibrage. Je dis susceptible de contribuer parce qu'évidemment tout ça reste encore un peu flou. Mais enfin, les Indiens ont bien noté qu'en 2018, l'Union européenne a défini une nouvelle stratégie pour l'Inde au titre de la coopération renforcée et qu'elle a sorti l'année dernière le programme du partenariat stratégique Union européenne, une feuille de route pour 2025. Et que, qui plus est, ce mois-ci, la stratégie de l'Union européenne pour la coopération dans l'Indo-Pacifique a été mise sur la table à Bruxelles. Donc les choses sont en train d'évoluer, mais évidemment, il ne suffit pas que la Commission européenne renouvelée dise « notre projet sera géopolitique » pour que tout cela se concrétise véritablement.
Alors, l'Inde a été longtemps un leader du mouvement des non-alignés, on est dans les années 60. Est-ce que vous diriez aujourd'hui encore que l'Inde est un pays non-aligné ou s'efforce de ne pas être aligné, par exemple, aux États-Unis? Puis je pense à cette même question à Balfir Aurora.
Pour ma part, je ferai une double remarque. D'un côté, le non-alignement, évidemment, évoque la figure de Jawaharlal Nehru, le premier des premiers ministres indiens, un des pères du mouvement des non-alignés. Et tout ce qui évoque Nehru est jeté aux poubelles de l'histoire pour le gouvernement nationaliste hindou. Mais au-delà de cela, il reste quelque chose de l'idée du non-alignement dans ce que les stratèges indiens appellent une volonté d'autonomie stratégique. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Les relations s'intensifient, y compris dans les domaines militaires avec les États-Unis, mais on se définit comme partenaire et pas comme allié.
Ce qui veut dire, par exemple, que l'Union européenne a une petite carte à jouer, et à travers l'Union européenne, évidemment, la France, parmi le pays le plus prégnant au sein de cette Union européenne, je fais référence au fait que la France a livré des rafales à l'Inde, qu'il y a eu des manœuvres communes entre l'Inde, l'Australie et la France, bien sûr, qui a envoyé son porte-avions, le Charles de Gaulle, c'était l'an dernier. Vous vouliez réagir, Olivier Dallage?
Oui, dans le livre de doctrine qu'il a publié, l'actuel ministre des Affaires étrangères de l'Inde, Jay Shankar, rend à plusieurs reprises des hommages très appuyés à la France et à son rôle stratégique, et à la fois pour sa capacité de fournir en matériel militaire, mais pas uniquement, en tant que partenaire. Et on voit bien que depuis quelques années, la France est perçue comme un partenaire beaucoup moins mineur qu'elle ne l'était auparavant sur le plan stratégique. Et le fait que, par exemple, Emmanuel Macron n'ait pas contribué au concert de critiques sur les problèmes liés à la démocratie, notamment au Cachemire, d'autres gouvernements, a été extrêmement apprécié à New Delhi.
Alors, c'est un peu difficile difficile à comprendre. Il y a le Quad que évoquait Jean-Luc Racine. Le Quad, c'est donc les États-Unis, l'Inde, le Japon et l'Australie. Puis de l'autre côté, il y a, je sais pas comment on dit, un mouvement indo-pacifique qu'on retrouve. C'est l'Inde, ça. La France et l'Australie. Comment ça s'articule?
Et les Pays-Bas et d'autres? Bah, ça s'articule. Le Quad est le noyau dur, si vous voulez, même si c'est pas une alliance formelle. Et le concept géostratégique indo-pacifique est un concept beaucoup plus large, mais qui inclut davantage de pays.
C'est ce que fait craindre un petit peu à la Chine, le fait que ce Quad et cette alliance indo-pacifique deviennent une forme d'OTAN de la région. C'est un peu une crainte qu'ont les Chinois. Ils ont raison.
Ils s'en méfient. Ils n'ont pas tort, ils s'en méfient énormément, et d'ailleurs les Russes aussi. Les Russes critiquent énormément ce concept indo-pacifique.
Là oui, les Russes, comme les Chinois, parlent plutôt d'Asie-Pacifique, alors que les Indiens parlent plutôt d'Indo-Pacifique. Il y a plus qu'une nuance sémantique.
Clairement, d'ailleurs, les Chinois ont à de nombreuses reprises dit que c'est pas parce que l'océan Indien s'appelle l'océan Indien qu'il appartient à l'Inde.
Alors, Belvedere Roy, cet Indo-Pacifique, comment l'Inde est en train d'évoluer dans sa position, dans son regard sur le monde, et dans son positionnement entre les États-Unis d'un côté et puis la Chine de l'autre?
Oui, je crois que, comme vient de dire Olivier et Jean-Luc, le non-alignement existe comme état d'esprit, comme ancre de la politique étrangère. On peut avoir des traités d'amitié, on peut avoir des partenariats stratégiques, mais l'Inde recule toujours quand on parle d'alliance. Et l'Indo-Pacifique, l'océan Indien, a toujours revêtu une importance grande pour l'Inde, avec des échanges à la fois de peuples et de commerce vers l'Afrique orientale. Et donc, c'est quelque chose. Le partenariat avec la France est vu comme positif parce que la France aussi a des intérêts dans cette région. Et puis, nous avons quelques difficultés avec les bases, par exemple en Sri Lanka, et les efforts, chacun dit, d'encercler l'autre. On a parlé de nos rapports avec la Chine. Et donc, c'est quelque chose qui demeure, malgré le Quad, parce que les navires américains aussi ont commencé à manœuvrer dans ces régions, dans ces eaux. Finalement, je crois qu'il faut se rappeler que entre l'Inde et la Chine, avec cette frontière que nous avons et ce grand voisin, il est difficile pour l'Inde de contrecarrer avec la route, la nouvelle route Belt and Road.
La route de la soie, oui.
La route de la soie, c'est cette stratégie d'encerclement, et l'Inde cherche des amitiés, même si elle ne cherche pas des alliances.
Olivier Dallage, alors c'est vrai qu'il faut rappeler que, pour poursuivre un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, la France est une puissance indo-pacifique à travers ces dom-toms qui sont la Réunion, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis et Futuna. Il y a des présences françaises dans l'océan Indien et dans l'océan Pacifique, ce qui explique la dimension indo-pacifique de la France. Voilà, il fallait peut-être un peu le préciser. Tous nos auditeurs ne l'ont pas forcément en tête. Jean-Luc Racine, il y a eu tout en haut de l'Himalaya comme un accrochage. Il y en a, semble-t-il, régulièrement entre l'armée indienne et l'armée chinoise qui lui fait face. Est-ce qu'un conflit entre l'Inde et la Chine est imaginable ou tout à fait surréaliste?
Il est imaginable, mais il est très peu vraisemblable. En revanche, on peut penser que les accrochages, et on a évidemment à l'esprit ce qui s'est passé au mois de juin de l'année dernière, où là il y a eu un véritable accrochage, une véritable bagarre. Je dis bagarre parce que c'était vraiment avec bastonnade, poing, etc. On ne tire pas de coup de feu. Les soldats des deux parties sont armés, mais ne tirent pas. En revanche, c'était la première fois depuis 1975 qu'il y a eu des morts sur ce front. D'habitude, ce sont des face-à-face. relativement courtois. Vous avez passé la ligne, merci de bien vouloir revenir vers vos positions. Donc là, il s'est passé quelque chose et ça a contribué aussi, évidemment, à rapprocher l'Inde de ce contexte, de ce concept indo-pacifique et du Quad. On est dans un jeu très codé, normalement, entre la Chine et l'Inde. Il faut savoir aussi, bien sûr, que la Chine pèse très lourd dans le voisin pakistanais, qu'un élément clé de la route de la soie traverse le Pakistan, mais traverse aussi le nord du Cachemire, administré par le Pakistan et revendiqué par l'Inde. Donc on a là des zones très sensibles où se regroupent trois puissances nucléaires, mais on peut penser que les contacts qui ont lieu régulièrement, aussi bien entre diplomates qu'entre eux depuis la crise de 2020, les généraux commandant les corps d'armée des zones frontalières, pour que tout cela reste quand même hors des dérives les plus inquiétantes qui mèneraient à une guerre ouverte, fût-elle conventionnelle. Le problème, évidemment, c'est quand on a une guerre conventionnelle avec des puissances nucléaires, il faut savoir s'arrêter à temps.
Voilà, on va laisser un petit peu de côté la géopolitique, on arrive un peu au terme de cette émission. Je voudrais revenir vers vous, Sandrine Prévost. Alors on a vu, vous nous avez expliqué fort bien les différences entre le monde occidental et le monde indien, mais alors si on redescend au pays des rickshaws pour faire plaisir à Olivier Dallage qui a écrit un roman autour d'un chauffeur de rickshaw, l'homme de la rue, l'Indien de base, l'Indien moyen, comment il voit l'Europe? D'abord, est-ce qu'il voit et la voit quelque part? Comment c'est flou pour lui, qu'est-ce que ça représente et est-ce que ça représente quelque chose?
Moi, personnellement, j'ai pas l'impression qu'ils font une différence, sauf ceux qui vont dans des grandes écoles, ceux qui ont l'occasion de venir en Europe, mais sinon, ils ne font pas la différence entre la France, les États-Unis et l'Angleterre. Moi, j'explique plutôt que je fais partie d'une caste particulière qui s'appelle les Français, et puis voilà, c'est tout. Mais c'est un grand bloc qu'on confond même parfois avec les États-Unis et qu'on appelle English ou Gora, Goralox. Pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire l'homme blanc. On est une masse, quoi. On est des hommes riches. Globalement, on est tous perçus comme riches. Et puis, avec des mœurs qui leur sont étrangères. Moi, je travaille beaucoup dans l'Inde du Nord. Donc, majorité, c'est des végétariens. Ils respectent fortement les traditions des mariages arrangés. Donc, nos mœurs à nous, ça leur est étranger. Et ils en ont connaissance un petit peu, via les médias, etc., ou les films, mais c'est la connaissance, elle est quand même très floue. C'est des images, un peu ce que vous disiez au début, les mœurs hommes-femmes, ça choque un peu, ou ça inquiète. En même temps, ils sont curieux. En même temps, la personne qu'ils rencontrent, c'est pas forcément... elle peut représenter ses Anglais, mais pas forcément, elle peut être différente...
Il faut dire que c'est déjà tellement grand et tellement compliqué l'Inde que évidemment c'est un monde en soi l'Inde, et donc il y a l'Inde d'un côté et l'autre monde de l'autre, on peut dire ça comme ça.
Oui, et puis ils admettent complètement la différence, qu'on a des mœurs différentes. De toute façon, ce qui les intéresse, c'est de vivre. Ce qui les intéresse, c'est leurs affaires à eux. Enfin, voilà, ce qui se passe chez eux. Après, par curiosité, mais. C'est pas non plus extrêmement très curieux. Les gens du Nord sont pas très curieux des modes de vie des Indiens du Sud non plus. Hein. Donc pourquoi voulez-vous qu'ils s'intéressent en particulier aux Européens? Après, ils ont envie de venir en Europe pour l'argent, pour le travail, pour les opportunités, mais pas parce que ça représente une culture... faramineuse.
Méconnaissance mutuelle, c'était le titre de cette émission. Merci à tous les quatre, Jean-Luc Racine, Sandrine Prévost, Balvira Arora et Olivier Dallage d'avoir été au Carrefour de l'Europe, réalisation Guillaume Munier, en partenariat avec Courrier International. Sur la page de l'émission, des infos sur nos invités. Pour réécouter ce Carrefour de l'Europe, le site rfi.fr, rubrique podcast. Vous pouvez bien sûr vous abonner au podcast de l'émission via votre plateforme préférée, et par exemple Google, Apple ou Deezer. On reste en contact via Facebook et Twitter. Daniel Desesquelles, Bruxelles, où que vous soyez, à Paris, à New Delhi, à Bombay, ailleurs dans le monde, ben, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Sept milliards de